14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Alexis, qui n'a pas encore 17 ans, voulait tuer son père. C'était une idée qu'il avait déjà repoussée à plusieurs reprises. Et puis l'autre soir, cet adolescent, qui ne supportait plus être rudoyé, voire brutalisé, est passé à l'acte. Alexis a épargné sa demi-sœur, qui a 3 ans, parce qu'il l'aimait beaucoup.
Bonjour. Un adolescent de 16 ans et demi peut-il anéantir 6 personnes en 10 minutes, laissant derrière lui une scène de crime qui a tout d'une exécution professionnelle? Cette question demeure sans réponse depuis 25 ans et la découverte en 1995 de ce massacre d'une famille russe et leurs amis dans une villa de Louveciennes, près de Paris. Le jeune Alexis aurait abattu tout le monde, thèse retenue par la justice mais qui va susciter la perplexité. Une autre explication va alors surgir pour expliquer cette tragédie dit à huis clos, celle d'une vengeance venue de Moscou, un carnage orchestré par la mafia russe qui aurait laissé le fils de la famille Polevoy porter tout seul le chapeau de ses crimes. Alexis est-il le meurtrier de sang-froid décrit par les enquêteurs ou a-t-il été manipulé pour apparaître comme le parfait coupable? L'affaire est-elle vraiment terminée? Autant de questions que nous allons poser au cours de cette heure à nos invités.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, les mystères de la villa de Louveciennes, histoire d'un carnage à huis clos qui commence une nuit d'hiver 1995 dans une banlieue cossue de l'ouest parisien. Il est 3h du matin, ce lundi 27 février 1995, quand le commissariat de Marly-le-Roi, dans les Yvelines, reçoit un appel d'urgence. Au bout du fil, la voix blanche d'un adolescent qui prononce ces mots « Venez vite, ils ont tué toute ma famille ». L'interlocuteur a rapidement décliné son identité, Alexis Polevoy. Il a donné une adresse, une villa du chemin des Graissés à Louveciennes. La commune, limitrophe, est à seulement 5 minutes du commissariat. La patrouille de police est aussitôt sur place. Elle s'arrête devant un pavillon de style anglo-normand, adossé à la forêt de Marly. Les lumières du rez-de-chaussée sont allumées. Sur le pas de la porte, Alexis, 16 ans et demi, accueille les fonctionnaires. C'est lui qui a téléphoné. Il est livide, tremblant. Ses propos sont confus. Il a consommé beaucoup d'alcool. Les policiers, bientôt rejoints par leurs collègues de la police judiciaire de Versailles, pénètrent dans la villa silencieuse. Alexis les guide vers le salon. Il y a là, en travers d'un petit couloir, Eugène Polevoy, le père de famille. Il gît, face contre terre, sur un tapis qu'il avait ramené d'Asie centrale. Une main tendue vers son bureau où il tentait peut-être de se réfugier. Le légiste compte 3 orifices de balle. Dans le salon, il y a son épouse Ludmila, belle-mère d'Alexis. Elle aussi a tenté d'échapper à l'agresseur. Elle avait empoigné un tabouret avant de s'écrouler. Un couple d'amis de la famille, les Russes Slava et Olga Vyachlav, ont été tués au même endroit alors qu'ils prenaient un verre. Alexis désigne le premier étage. Dans une chambre, les policiers aperçoivent, écroulés derrière le fauteuil où ils se cachaient, Fedor, le père de Ludmila et grand-père par alliance d'Alexis. Son épouse Zelna est retrouvée au rez-de-chaussée, pieds nus, vêtue de sa robe de chambre à petit cœur. 6 morts et 2 rescapés. La petite Nathalie, tout d'abord 3 ans, demi-sœur d'Alexis, retrouvée dans une chambre à l'étage. Elle dormait à poing fermé dans son lit à barreaux. Quelqu'un avait jeté sur elle une couverture. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle n'a rien vu, rien entendu. Et puis Alexis, bien sûr, un garçon qui va fêter ses 17 ans. Dans un mois, il est groggy, conduit dans les locaux de la PJ de Versailles. Il raconte qu'il était absent de la maison quand l'attaque a eu lieu. C'est en rentrant vers 3 heures qu'il a découvert la tuerie. Il a aussitôt donné l'alerte. Les policiers ont du mal à le croire. Il est pressé de questions. Il évoque maladroitement de mystérieux tueurs ou de possibles rôdeurs. Mais les indices relevés sont contre lui. Des maillons cassés de son bracelet montre sont retrouvés devant la porte du premier étage, la chambre du grand-père. Il a des traces de poudre sur les mains et ce sont ses empreintes qui sont sur les 3 armes à feu. Des armes que détonnait son père, une réplique de fusil d'assaut Kalachnikov, un pistolet custom à un coup et une unique, une carabine automatique 22 longs rifles. Au total, 16 douilles percutées ont été retrouvées. Une seule n'a pas touché sa cible. Il avoue avoir tué son père car il le traitait comme un chien. Idem pour sa belle-mère et les autres victimes qui l'humiliaient. Il a épargné sa petite sœur car il l'adore. Mardi 28 février, après 24 heures de garde à vue et alors que les journaux évoquent déjà l'ombre de la mafia russe, le procureur de la République adjoint de Versailles, Hervé Garrigue, rencontre Alexis Polevoy. Le magistrat indique que l'adolescent avait décidé de longue date de liquider son père. Il n'avait eu que peu d'occasions de se retrouver avec lui. Polevoy, businessman travaillant dans l'import-export, étant toujours par mont et par veaux. C'est en fin de soirée, vers 22h, que le jeune homme aurait décidé de passer à l'action. Il dit avoir agi seul. Il est épuisé. Dans l'après-midi, Alexis est déféré au parquet de Versailles. La juge Catherine France Rechter le met en examen pour assassinat, celui de son père, et 5 meurtres. Il est écroué. Le parquet précise que l'intéressé bénéficie de l'excuse de minorité et qu'il encourt une peine de 20 ans de prison. Affaire rapidement éclaircie, donc, même si l'enquête est très loin d'être terminée. Le mobile, une haine contre le père de famille, suffit-il à expliquer une telle équipée meurtrière? Des ombres se cachent-elles derrière le jeune Alexis Polevoy? Le 11 avril 1995, moins de 2 mois après la tuerie, Alexis est dans le cabinet de la juge Rechter à Versailles. 3 heures d'audition où il détaille la soirée du 26 février. Il détestait son père, Eugène Polevoy, qu'il décrit comme un homme porté sur la boisson, violent, humiliant. Le soir du drame, Eugène est rentré à la maison éméché. Il a frappé Alexis à coups de ceinturon. Il venait de lui interdire de revoir sa petite amie, Yana, la fille du directeur français de la compagnie russe d'aviation Aeroflot. Il lui reprochait ses mauvais résultats scolaires. Il lui avait repris la clé de son studio près du lycée privé L'Ermitage, à Maison Lafitte, confisquait sa carte de crédit avec laquelle il pouvait tirer jusqu'à 10 000 francs d'argent de poche par mois, une petite fortune à l'époque. Alexis s'est enfermé dans sa chambre, puis il a pris sa décision. Il a discrètement récupéré 3 armes de son père, un passionné de tir sportif qui a installé un stand dans le sous-sol de la villa. Il est sorti avec une carabine, il a tiré une première balle à travers la fenêtre de la terrasse et a blessé son père. Il est revenu dans la villa, puis l'a achevé avant que l'homme ne rejoigne le bureau où se trouvaient d'autres armes. Il a ensuite fait feu sur sa belle-mère, le couple d'amis, les grands-parents, avant d'abattre Zina, la grand-mère. Il l'a obligé à fouiller les poches d'Eugène Polevoy pour en tirer sa carte de crédit. L'adolescent n'a pas le permis, mais a pris la Rover de sa belle-mère pour rouler jusqu'à Paris. Il a bu du champagne dans un club privé près des Champs-Élysées, puis a entraîné une hôtesse, Béa, une brune aux yeux bleus, dans un hôtel. Il a payé avec la carte bancaire de son père et a rejoint la villa des Yvelines. 9 mois après les premiers aveux, 25 novembre 1995, Alexis Polevoy change subitement de version. Cette fois, il raconte avoir agi sous la menace et l'emprise d'un homme en noir. Il lui aurait ordonné le carnage, un individu qui portait une cagoule et parlait russe. Il cherchait un dossier rouge concernant une affaire financière à 30 millions de dollars. C'est lui qui a tué tout le monde, puis a demandé à Alexis de tirer une balle dans la tête de son père. Avant de partir, au volant d'une Renault Safrane, l'homme aurait exigé du jeune garçon qu'il appelle la police et s'accuse des meurtres. Sans cela, il serait revenu tuer la petite sœur qu'il avait épargnée, mais aussi la mère biologique d'Alexis, Raïssa, une bibliothécaire à Moscou. La piste d'un tueur à gages envoyé par la mafia russe émerge à nouveau avec cette question. Pourquoi aucun des hommes abattus dans la soirée du 26 février n'a pas tenté de se défendre? Tous étaient formés au combat. En premier lieu, Slava, l'ami de la famille, un colosse, ex-officier du KGB, ancien para de l'armée rouge. Même le grand-père, Fedor, était un ex-officier de l'armée de l'air. Il était encore alerte et musclé, mais il n'a eu pour seule hâte que de se réfugier sous un fauteuil. Tous les tirs sont d'une précision parfaite. Une balle entre les 2 yeux pour Ludmila, la belle-mère. Tous les témoins qui connaissent Alexis ne peuvent pas croire qu'il se soit subitement transformé en un tueur professionnel manipulant 3 armes à la fois et abattant 6 personnes. 26 juillet 1996, lors de la reconstitution organisée par la juge d'instruction à l'abri des murs de la villa du chemin des Graissets, Alexis Polevoy maintient la version de l'homme en noir. Hypothèse qui ne tient pas aux yeux des policiers, même si le climat qui règne depuis le début de l'affaire autour de la villa de Louvciennes est pour le moins curieux. Au lendemain des faits, la villa, placée sous scellé, avait été visitée par des inconnus. Rien n'avait, semble-t-il, été dérobé. La police avait alors pensé à des photographes en quête de sensationnel. Le surlendemain, la maison était à nouveau visitée, mais cette fois, de nombreux placards avaient été ouverts. Et dans la cave, les bouteilles de vin déplacées une à une, comme si elles avaient pu cacher un message ou une indication. Malgré les incohérences, la juge Rechter ne croit pas à la version de l'homme en noir, une rétractation classique destinée à fuir ses responsabilités. Les doutes vont persister, notamment à cause du parcours du père de famille, Eugène Polévoy. Les policiers s'intéressent au premier mort de la tuerie, le père d'Alexis Eugène Polévoy, 42 ans. Cet ancien apparatchik soviétique reconverti dans les affaires a fait fortune dans le commerce du bois. Il s'est installé en France en 1991 à Vichy tout d'abord, où sa personnalité et son train de vie ont attiré la curiosité des services de renseignement. Puis il a emménagé à Louveciennes où ce russe, patron de la Sofriex, une entreprise d'import-export, roule en Mercedes 600 et fréquente les meilleurs restaurants. Il s'est ensuite fait beaucoup plus discret. Quelques semaines avant d'être exécuté, en déplacement à Moscou, il a été attaqué sur la route de l'aéroport. Il était revenu en Russie pour régler un différend commercial et on lui a tiré dessus. Il était lui-même armé mais n'a pas eu le temps de riposter. Eugène Polévoy est rentré immédiatement en France. Depuis cet incident, il était toujours flanqué de l'ex-para, Vyatchlav, l'ami de la famille, qui a été aussi tué dans la villa. 15 jours avant le massacre, Polévoy a retiré 1 million de francs en espèces sur l'un de ses comptes bancaires. L'argent n'a jamais été retrouvé. Le 25 février, deux jours avant qu'il ne soit abattu chez lui, il confie à une relation d'affaires qu'il est racketté par la mafia russe. Eugène Polévoy explique qu'il s'est fait coincer un soir sur le bas-côté de la route dans les Yvelines par une voiture. Il a préféré ne pas rentrer chez lui et a dormi à l'hôtel, à Paris, à sa comptable. Il confie « Rien ne va plus, je suis foutu ». 8 décembre 96, soit un an et 10 mois après la tuerie de Louveciennes, l'enquête s'enfonce dans le mystère russe. Dimitri Polévoy, le frère d'Eugène, est retrouvé mort, criblé de balles près de sa résidence à Vitebsk, en Biélorussie. Dimitri avait repris les affaires de son frère défunt. Il venait juste d'obtenir son visa pour la France et voulait témoigner auprès de la juge d'instruction. Il s'apprêtait même à donner une conférence de presse avant son départ pour Paris. Il n'en a pas eu le temps. De son côté, la mère d'Alexis, qui habite Moscou et ne croit pas à la culpabilité de son fils, indique avoir eu un rendez-vous avec le procureur général de Russie. La justice aurait établi un lien entre la mort récente de Dimitri Polévoy et le massacre de Louveciennes. Le procureur général assure qu'un dossier sera prochainement transmis à la juge française. Une pièce qui pourrait tout changer. L'un des avocats d'Alexis, Maître Bourdon, saisit cette opportunité. Il demande de nouvelles investigations à la juge, notamment l'examen de comptes bancaires au Luxembourg. Le 4 avril 97, la cour d'appel de Versailles ordonne un supplément d'informations. Sa mère espère qu'Alexis sortira bientôt de la prison de Bois-d'Arcy. La juge d'instruction ne va jamais recevoir le fameux rapport du procureur général qui aurait pu bouleverser l'enquête. Alexis va rester en prison. 3 ans après son incarcération, il va comparaître devant une cour d'assises. Ce mercredi 4 mars 1998, Alexis Polévoy se présente devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines. Il avait 16 ans et demi quand il s'est retrouvé aux premières loges du massacre. Il va bientôt fêter ses 20 ans. Il a perdu en prison son visage poupin. Celui que sa mère surnomme l'ourson apparaît comme un jeune homme aminci et musclé. En détention, il n'a jamais fait parler de lui. Plongé dans ses livres pour passer son bac et s'inscrire à un DEUG de sciences éco, et faisant chaque soir sa prière. Procès à huis clos, Alexis étant mineur au moment des faits, alors qu'il réclamait, tout comme ses avocats, Maître Leclerc, Bourdon et Combes, des audiences publiques. Curieux procès prévu pour durer 10 jours et qui se déroule à l'abri des regards. 3 premiers jours consacrés à l'étude de la personnalité d'Alexis, tiraillé depuis l'âge de 10 ans entre des parents divorcés, entre France et Russie. 30 témoins triés sur le volet défilent à la barre. Beaucoup décrivent un garçon calme, attachant. Tellement maladroit qu'il était incapable de tenir un verre d'eau sans le renverser, répète sa mère Raïssa. On se demande comment il a pu faire feu sans trembler et tuer avec une telle précision. La balistique, imprécise et bâclée selon la défense, n'apporte pas de réponse sur ce point. Mais elle reste ancrée sur une certitude, il n'y a pas eu plusieurs tireurs. Citée à comparaître, Béa, l'escort girl qu'Alexis avait entraînée dans une chambre d'hôtel la nuit du massacre, décrit un adolescent aux aguets, un client qui posait des questions étranges. Que risque en France un enfant qui a tué ses parents? Ou encore, quel est le numéro à composer pour prévenir la police? Béa avait trouvé Alexis inquiétant, un témoignage sur lequel s'appuie l'accusation. L'avocate générale s'attache ainsi à démontrer point pour point la thèse de l'homme en noir ou du commando. pourquoi de mystérieux assassins seraient-ils venus les mains vides et auraient utilisé les armes se trouvant dans la maison de Louvsienne? La piste de la mafia russe sera balayée d'un revers de manche. La cour avait d'emblée précisé qu'elle ne s'attarderait pas sur ce point. 18 à 20 ans requis contre le jeune russe. Le 10 mars, Alexis est finalement condamné à 8 ans de prison. Verdict entre deux eaux, une peine trop clémente pour un massacre prémédité, trop lourde si l'accusé est innocent. Alexis retourne en prison pour purger sa peine. Il ne va rien changer à son attitude de détenu modèle, résigné à l'idée de passer quelques années en milieu carcéral, tout en faisant savoir qu'un retour en Russie signerait son arrêt de mort. Le 5 octobre 1998, 7 mois après sa condamnation, Alexis Polevoy est au palais de justice de Versailles pour contester l'arrêt d'expulsion qui sera pris dès lors qu'un jour il pourra sortir de prison. Alexis fait savoir qu'un retour forcé en Russie, son pays natal, signerait son arrêt de mort. Présente à cette audience, sa mère, Raïssa, qui a toujours défendu son fils et le considère comme innocent, affirme qu'elle ne souhaite pas que celui-ci revienne auprès d'elle à Moscou. « Il y va de sa vie », dit-elle. Alexis affirme qu'il reste sous la menace de l'homme en noir. Il indique vivre dans la peur. Bien que la cour d'assises rejette cette thèse, le président du tribunal accède à cette demande. Le magistrat semble reconnaître que le cas Polevoy n'est pas des plus ordinaires. Il déclare ainsi « Pour horrible que puissent apparaître les crimes que vous avez commis, il est établi qu'ils sont liés à un contexte familial ». Les experts ne notent aucun risque de récidive chez l'intéressé. Quand il sera libéré, le jeune homme sera donc autorisé à rester en France. Emprisonné au centre de détention de Val-de-Reuil, en Normandie, Alexis respecte à la lettre les consignes de l'administration. Il est alors considéré comme un détenu qui ne présente aucune dangerosité. Au début de l'année 2000, il bénéficie de permissions régulières. Il peut alors retrouver son tuteur ainsi que des proches. Une amie russe s'est engagée à l'héberger dès que sa libération sera effective. 8 juillet 2000, Alexis, 21 ans, une mèche brune descendant sur son front, les épaules larges, quitte la prison. Quatre de ses proches sont sur le parking et l'embrassent. Il allume une cigarette et dit simplement « tout va bien ». L'acteur principal de la tuerie de Louvsienne, soucieux de commencer vraiment une nouvelle vie, n'a plus jamais fait parler de lui.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Bonjour, c'est Cindy Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.